Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Yeah, here come the rooster.
Il est jamais trop tard pour accueillir le Rooster. Antoine Roussel qui est avec nous en ce vendredi soir. Salut mon Antoine, comment ça va?
Salut Mario, ça va excessivement bien.
Oh, excessivement bien. Là, raconte-moi qu'est-ce qui te porte à cet ultime état d'esprit ben écoute, ce soir.
Des fois, t'as déjà une journée un petit peu plus difficile et ça se finit toujours mieux. Donc, quand j'ai la chance aussi de te parler, ben c'est toujours un petit peu mieux. Mais oh, écoute, la journée a tellement mal commencé. Je me suis réveillé à 5h55, les pieds dans l'eau, un petit problème de fuite d'eau dans la maison. Donc, ça c'était un prélude pour la journée, mais tout s'est replacé d'ici la fin de la journée. Puis au final, ben on prend un bon verre de vin avec nos amis. Puis demain est un autre jour et c'est comme ça qu'on reste positif.
Extraordinaire. Es-tu un gars qui se lève dans le même état d'esprit à part s'il y a une bad luck comme t'as vécu ce matin? T'es-tu comme quelqu'un qui a pas de mérite d'être de bonne humeur ou c'est pas évident tout le temps?
Ben je te dirais, j'ai pas besoin de mérite. Je suis souvent de bonne humeur. Puis mais je le dis tout le temps, Mario. Ça, c'est ma règle. T'as le droit une journée par mois d'être de mauvaise humeur.
Ah, c'est bon, règle. Ça. OK.
Puis, ça, fait que des fois, ça arrivait que quand je jouais encore, ben, j'étais pas de bonne humeur, puis ça arrivait. Puis je le disais à mon coach, ça, c'est ma journée, je la prends. C'est... Mais là, j'étais mal pris là, quand tu l'apprenais le 5 janvier, par exemple, puis t'as un mois à finir au complet. T'sais, généralement, tu la gardais pour ta troisième semaine ou ta quatrième semaine. Mais des fois, que veux-tu? La vie fait les choses ainsi. Puis t'as pas le choix d'obtempérer.
Antoine, qu'est-ce que t'as pensé? Je vais te faire écouter dans un premier temps Ryan Reeves, qui, bon, on a vu Albert Jacquet qui s'est fait questionner sur le combat. J'ose même pas appeler ça vraiment un combat. Je sais pas si t'appelles ça un combat, mais en tout cas, l'empoignade entre Jacquet et Reeves. Et Reeves a rencontré des médias aujourd'hui là-dessus, puis voici ce qu'il dit.
I don't like getting jumped. I don't know if I've ever really jumped anybody. If you want to fight, just ask me. I'm always around. You know where to find me.
Once it got going, what was your perspective on it? When you see the net kind of involved like that?
Yeah, I don't know. I don't know if he did it on purpose to end it or what. He just kind of, I don't know, once I kind of stood up and he had to grab me, he just kind of tried pushing me for the rest of the way. So I felt like it was on purpose, but we got him two more times, I'm sure. Sure, something might happen.
Donc, Reeves, il dit, regarde, on a deux autres matchs. Il va arriver, il va y avoir un match revanche. Il dit pas de même, là, mais c'est ça que j'interprète. Et il dit que la poussée sur le filet, est-ce qu'il l'a fait par exprès? Il dit, je pense que oui. Peut-être, il voulait-tu mettre fin à l'échauffourée à cause de ça? Toi, comment t'as vu ça, Antoine, toi qui a été impliqué dans des combats dans la Ligue nationale il y a pas si longtemps que ça?
Non, absolument. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère avec Ryan Reeves parce que c'est un joueur qui est excessivement baveux. Puis même après ses combats, de la façon dont il engage avec la foule. Puis pour moi, là, dans le combat, Humbert Jacquet, il l'a reviré dans ses bobettes pas à peu près. Puis c'est une manière pour lui de se défendre puis de toujours de se garder important dans la ligue. Puis ça m'a toujours dérangé parce qu'il faisait quand je jouais. Puis il a jamais vraiment rencontré son homme. Puis Ryan Reeves, quand tu regardes la situation, s'il jouait il y a une quinzaine d'années, il jouerait plus en ce moment parce que t'as une date de péremption quand tu fais ce job-là. Puis ben lui, il a juste plus d'adversaires finalement, plus beaucoup. Hein. Quand tu regardes la construction des équipes de la Ligue nationale.
C'est un bon point, ça, Antoine. Fait que lui, il est sur un party. Il y a comme, je m'excuse de l'anglicisme, mais il y a une free ride, ce qu'on appelle.
Complètement. Et lui, il vient de signer 3 ans à Toronto. Écoute, il y a 36 ans. Il n'y a personne d'autre là, qui a eu ce genre de fin de carrière-là en faisant ce rôle-là. Pour moi, c'est sûr qu'il est quand même capable de jouer quand même. Là, c'est pas un vilain joueur de hockey. Mais son arrogance m'a toujours dérangé. Puis même quand je jouais avec les Stars, puis il jouait pour Saint-Louis, c'est toujours venu me chercher parce que c'est facile d'être tough puis d'être de vouloir impressionner contre des petits. Mais au partir du moment où t'as un gros joueur dans ton équipe, là c'est plus le même affaire là, c'est plus aussi tough, c'est plus aussi intimidant. Là on reste plus calme parce que c'est le retour du balancier, il se fait. Mais quand c'est sûr t'es le plus gros sur la glace puis tu sais t'as pas peur de ça, ben c'est sûr que t'es intimidant puis tu profites de ta domination. Fait que moi ça m'avait toujours dérangé. Puis ben c'est sûr que écoute, j'ai jamais eu peur de personne, mais en même temps quand le gars il est deux fois plus gros que toi, ben tu sais c'est toujours un petit peu plus facile pour l'autre partie là.
Mais je l'avais jamais vu comme tu nous l'amènes, pis c'est vrai, dans le fond, c'est comme si c'était un gars qui a doublé 5 fois puis qui fait atterrir dans la cour d'école ou primaire, là.
Ben c'est exact. C'est exactement ça, Mario. Tu l'as dit dans des mots que j'étais pas capable de trouver.
Ben toi non plus, j'étais pas capable de trouver les tiens. Fait qu'on se complète bien. Fait que c'est ma façon de le de le dire de façon imagée. C'est peut-être Martin Saint-Louis qui déteint sur moi, Antoine, lui qui aime bien les images. Mais crois-tu que là c'était juste le match 1 des Leafs. Crois-tu que pour eux autres, c'est 3 ans en plus, j'en reviens pas, que c'est vraiment une acquisition qui va faire d'eux une meilleure équipe ultimement, même s'ils joueront probablement pas dans la majorité des matchs en série?
Non, absolument, mais je pense que quand t'es rendu comme les Leafs, puis que t'as la capacité d'avoir ces joueurs-là, ce budget-là, ben pourquoi pas investir un petit peu d'argent là-dedans? Je pense que c'est pour ça qu'ils ont Clifford dans les mineurs, parce que si à un moment donné, ils ont besoin d'un joueur qui a ce caractère-là, puis qui est encore un petit peu capable de jouer, ben ils ont cette opportunité-là de l'avoir. Fait que pour moi, c'est de cette façon-là qu'il voit. Puis aussi, s'il décide de tout simplement de l'envoyer dans les mineurs, ben tu sais, est-ce que tu vas vouloir vraiment ramasser Ryan Reeves avec cette année plus 2 autres années de contrat? Je pense que tout est calculé du côté des Leafs à ce niveau-là pour vraiment limiter son exposition s'il fallait qu'il descende et puis qu'ils aient besoin d'économiser de l'argent sur le cap salarial. Donc tout est pensé, ils ont une très bonne stratégie selon moi, mais c'est juste qu'il n'y a plus beaucoup d'adversaires comme ils pouvaient l'avoir dans le passé.
Non, vraiment. Et juste pour revenir sur ce qu'il reproche à Jack Hyde de lui avoir un peu sauté dessus,
il faut que tu sois prêt à te répondre. Mario, faut que tu sois prêt. Tu sais, quand tu frappes un gars dans le dos, tu le sais que...
Hey, ben oui. Hey, c'est ça, là.
Là, tu le sais, là. Tu me feras pas à croire que tu sais pas ce que t'as fait, puis que t'es pas responsable un peu de tes actes, puis t'es pas conscient que tu l'as frappé dans le dos, là. Tu sais, tu le sais. Moi, quand je faisais une grosse mise en échec, je le savais que je regardais autour si je me préparais d'un coup qu'il y a un gars qui arrive de nulle part, tu sais, que pour être prêt, parce que il faut que tu sois prêt. C'est ta meilleure défense. Puis souvent, moi, ce que je faisais, ben souvent, je me souviens, puis je pense que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis pareil pour les gens qui l'ont pas entendu. Eric Nystrom me disait tout le temps, le plus important dans un combat, c'est de donner le premier coup de poing. Mais ça, c'est la vérité. Faut toujours que, tu sais, comme ça, tu donnes pas la chance à l'autre. Mais Amber Jacket, il a fait ça, puis il s'est donné l'opportunité de gérer un peu plus le combat de cette manière-là.
Je suis tellement d'accord avec l'histoire du premier coup de poing, et sans entrer dans les détails, à un moment donné, je l'ai appliqué et ça a été très payant. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais
c'est pour une fun soirée dans une taverne, ça.
Ben exactement. Mais il reste que par rapport à, tu sais, quand il dit, il a juste à me le demander. Hey, écoute, t'es pas le seigneur des anneaux, toi là. Je veux dire.
Tu fais de la musique à mes oreilles, Mario, ce que tu dis là. Non, pour moi. Il n'y a pas besoin de te le demander, il est sur la glace en regard, puis ça joue. Si t'es pas content, trouve-toi un autre job, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, je pense que sincèrement, je pense que pour sa réaction, justifie un peu comme ce que je te disais au début, il a trouvé enfin un petit peu la chaussure à son pied, puis là, il aime moins ça.
Puis veut pas, là, on est vraiment dans l'analyse détaillée d'un combat dont on est plus supposé de parler dans le hockey d'aujourd'hui, mais il y en a, puis il va en avoir un autre, c'est annoncé déjà le match revanche. C'est que, dans le fond, là, quand tu sais que t'as deux poids lourds, tu sais, c'est comme lui, c'est le tenant du titre, puis là, il sent qu'il y en a un qui challenge son titre. Et là, lui, il veut que le combat se passe. C'est comme Yvon Michel aimerait ça choisir tous les juges. Ben, lui, il aimerait ça choisir comment le combat va commencer. Puis OK, là, je te donne la permission. Là, j'accepte. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est comme un UFC, là. S'il y en a un qui est bon au sol, ben, tu t'organises pas aller au sol. Je veux dire, si...
Ben non, mais c'est
Jacky, lui, il aime ça faire son show une minute de tourner en rond avant de donner le premier coup. Jacky a compris ça. C'est, ah ouais, saute, dis-tu, laisse-y pas se placer. Puis
Un joueur de, tu sais, Jacky, il se bat, tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est le genre de joueur qui veut stager ça, puis que, tu sais, il se bat avec l'émotion.
Oui.
Il se bat parce que c'est pour ses coéquipiers, puis c'est comme, tu sais, moi, c'est comme ça, je le vois. Quand t'essaies de, tu sais, de mettre du flash là, puis de, tu sais, envoyer la foule après, ça, pour moi, là, tu le fais pour le show, tu le fais pas pour tes coéquipiers. Quand tu te bats, puis que, tu sais, ça paraît que t'es fâché, puis parce qu'il a fait mal à un de tes coéquipiers, puis là, tu sais, on rentre vraiment dans l'aspect du combat de hockey, mais ça existe encore. Puis tu sais, je sais que tout le monde n'est pas pour ça, mais veut pas, ça existe encore dans le niveau professionnel. Tant mieux, tu sais, ça fait que le hockey est différent, puis ça, il y a une certaine politique autour de ça. Puis ben, c'est pour ça que ça existe encore, puis que c'est pas parti. Mais la façon dont il fait, Jacky, pour moi, c'est la manière dont ça doit être fait. Quand c'est en stage, puis que tu veux faire le show, puis les paillettes, puis tout le kit, ben fais un autre sport. Mais c'est ça, Jacky, pour moi, c'est une des meilleures acquisitions du CH. Sincèrement, si les joueurs à ce caractère-là, ils courent pas les rues, puis les Canadiens sont excessivement chanceux d'en compter un dans leur rang.
Terminons avec le match de demain, mon cher Antoine. Les Hawks et le jeune Bédard qui, ma foi, tous les réflecteurs, toutes les caméras, toutes les lentilles braquées sur lui contre le Canadien. Ouverture locale, Montembeau devant le filet. À quoi tu t'attends?
Je m'attends à un gros match. J'espère qu'on va avoir le même genre de spectacle que le premier match parce que c'était splendide. Vraiment adoré. J'espère qu'on va avoir le même genre d'intensité parce que le Canadien, le dernier match, a montré son intensité tout de suite en partant, puis a maintenu la barre et a rendu coup pour coup, même si les lancers étaient beaucoup plus élevés en fin de match pour les Leafs, ben le Canadien était prêt. Puis c'est le genre de même match qu'on veut voir. Puis pour l'autre équipe, ben c'est sûr qu'on veut voir un Connor Bedard bon, très bon, électrisant, mais pas trop quand même.
Antoine, merci beaucoup de ta présence. Un gros bonus, c'est le crémage sur le gâteau de ce vendredi soir. Bonne fin de semaine, mon ami.
À vous aussi. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Maxime est avec nous. Bonsoir, Maxime.
Salut, Mario.
La fameuse pression. Mais, tu sais, c'est un mot qu'on entend tellement ad nauseam, mais ça veut pas dire que parce qu'on l'entend beaucoup que ça veut rien dire. Surtout quand on parle de la pression de Joie Montréal et de la pression pour un Québécois de Joie Montréal particulièrement. Tu sais c'est quoi? Tu l'as connu?
Ben oui. Je sais quoi, puis je pense que c'est une belle chose. Tu sais, j'écoutais les propos de Martin Saint-Louis qui disait qu'il aimait ça aller dans le public, puis que c'est pas le style à se cacher. C'est parce que lui, il a compris, il y a une façon de mettre ça de ton côté. Tu sais, c'est facile d'aller du côté négatif, puis penser que tout le monde voit juste tes erreurs, puis les défaites. Mais faut que tu penses aussi que c'est en tout cas, personnellement, c'est ces gens-là qui poussent, là. C'est ces gens-là qui amènent l'émotion, la passion. Je l'ai dit lors d'un match à TVA Sport quand on faisait des matchs durant la pandémie. Sans les partisans d'un gradin, c'est la même affaire que ma ligue de bière le lundi puis le mercredi. Non, mais pour vrai,
oui,
là,
à
part le calibre de jeu, là, c'est exactement le même feeling. T'embarques devant une aréna vide, c'est pas la Ligue nationale de hockey. Fait que faut que tu prennes ça, faut que tu acceptes ça, faut que tu apprennes à vivre avec la pression. La pression, normalement, c'est un athlète de haut niveau, puis un athlète qui est prêt à gagner, c'est supposé t'amener dans la bonne direction, puis t'aider à devenir meilleur. Tu sais, te pousser tes limites, on dit toujours en anglais « out of the box », mais c'est ça qui s'appelle la pression. Puis il y a plusieurs joueurs, je pense en particulier un gars comme Cole Caulfield, mais c'est ça qu'il fait, lui. Lui, il aime ça, avoir la pression d'avoir à marquer à tous les soirs, puis ça paraît dans son jeu.
Exactement. J'imagine que il va peut-être un jour la trouver plus lourde si c'est difficile de marquer. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand ça va bien, c'est probablement plus difficile de vivre avec la pression, Maxime?
Quand ça va bien, oui. Quand tu travailles, oui. Mais tu sais, regarde le profil de Cole Caulfield. Qu'est-ce qu'il fait? Donne toujours son temps aux partisans. Il a toujours le sourire. Il a toujours du temps pour les médias. Il n'y a jamais une fois qu'il est arrivé devant une caméra puis qu'il avait l'air bête. Puis ça va payer. Lorsqu'il va avoir une mauvaise séquence, je pense que les gens à Montréal comprennent ça. Que ce gars-là, il donne tout pour le Canadien. Tu sais, tu le ressens qu'il adore jouer pour le Canadien de Montréal. Il va avoir un moment donné qu'il ne marquera pas de but pendant 10-15 matchs. Parce que je pense pas que ça va arriver souvent, mais mettons que ça arrive.
Ouais, mettons.
Je pense que les gens vont y pardonner d'une certaine façon à cause de son attitude. Quand t'as quelqu'un qui passe à côté des gens lorsqu'il demande une signature, quand t'as une personne qui donne 10 secondes aux médias, peut-être que t'es attendu dans le détour lorsque t'as une mauvaise séquence. C'est peut-être ça la petite nuance qu'on mentionne pas souvent à Montréal.
As-tu vu des joueurs vivre difficilement avec une pression qui devenait négative?
Pas tant que ça, honnêtement. Tu sais, j'ai tellement eu des bons groupes de joueurs à Montréal avec du leadership. Tu sais, à la fin, c'était les Gianta, les Gomez. Tu sais, c'était tous des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience. Kamel Harris, c'était des gars qui étaient là pour donner leur 100% à chaque match. Tu sais, c'était des gars avec un éthique de travail phénoménal. J'ai joué avec un plus jeune, un Piqué Souben, qui lui se nourrissait de tout.
Carburait vraiment, oui.
Exactement.
Oui.
Tu sais, je suis pas capable de dire qu'un gars avec qui j'ai joué à Montréal avait de la difficulté à embarquer sa patinoire à cause de tout ça.
T'as pris connaissance des propos de Jonathan Drouin au Colorado, puis je le comprends de le dire rendu là-bas, là c'est plus facile d'en parler quand t'es détaché du marché. Puis même Kent Hughes me disait sur un autre sujet, mais je fais le parallèle pour tu vas comprendre. Lui-même, il voulait savoir comment son marché, parce qu'il gère un marché, il veut que ce soit attrayant, puis il parlait avec Tyler Toffoli après qu'il ait quitté le Canadien, parce qu'il dit qu'il est plus à l'aise de parler une fois qu'il est parti. Fait que c'est pas juste dans le cas de Jonathan, tu comprends le lien. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce que lui a dit? Puis il avait pourtant dit en arrivant, je carbure à la pression, mais clairement, c'est pas ça qui s'est passé.
Ben, tu sais, je pense que dans le cas de Jonathan, c'était vraiment juste de tourner la page, là. C'était aussi simple que ça. Ça a tombé sur Montréal, ça aurait été une autre équipe. Fallait qu'il tourne la page, puis c'est bien correct comme ça. Et moi, j'ai de la difficulté à croire ça, Mario, que jouer pour le Canadien, c'est stressant à un point que tu peux pas performer sa patinoire. Tu sais, le Centre Bell, l'historique, les partisans, la passion, le marché canadien. Pourquoi tu joues au hockey si tu veux jouer dans une aréna vide, t'as mieux retourner dans la Ligue américaine? C'est toute ta vie, quand tu te bats, quand tu fais tes efforts, quand tu te couches tôt, quand tu manges bien, quand tu t'entraînes à 5 heures du matin, c'est pour jouer pour le Canadien de Montréal, pas pour les Blue Jackets de Columbus, on s'entend?
Oui, oh, je te suis.
Pour pas juste arriver, quand on n'a pas les stats ou les résultats qu'on veut, dire que là, c'est le marché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as rêvé toute ta vie de jouer pour une équipe comme ça. Ben, quand ça fonctionne pas, c'est le joueur qui doit se regarder dans le miroir, c'est tout aussi simple que ça.
Ben, je suis tellement d'accord, puis il y a des non-dits, tu sais, ça résume bien trop d'affaires, puis c'est facile de juste parler de pression pour éviter de parler d'un autre paquet d'affaires qui probablement t'ont empêché de performer au plus haut niveau. Parlant de pression, c'est pas rien quand même, un jeune homme, c'est pas... Tu vas me dire, il l'a choisi. Je sais pas si c'est le hockey qui l'a choisi ou c'est lui qui a choisi ça, mais tu sais, quand t'arrives comme l'enfant prodigue, l'enfant désigné, le nouveau porte-étendard du hockey, comme ce que Connor Bedard vit, là, tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens qui vont choisir, les moments de parler aux médias parce qu'ils veulent pas trop. Lui, il choisit pas, là. C'est la troupe-mère dans chaque ville. Il y a pas grand monde qui ont vécu ça comme début de carrière, puis avoir en plus à livrer la marchandise à la glace, Max.
Non, puis je pense qu'il est fait sur mesure pour être capable de livrer, justement, ça n'a pas l'air à stresser. Puis tu sais, j'ai joué avec des joueurs comme ça, là. J'ai joué avec Sidney Crosby, j'ai joué avec les Sedin, j'ai joué avec Getzlaff Anaheim. Tu le sens juste quand tu leur parles dans le vestiaire, tu les as même pas encore vus patiner, puis tu sais qu'il y a quelque chose de différent. Tu sais, c'est des gars calmes, ils lisent leur journal dans leur casier, ils analysent tout, ils ont 1000 questions pour l'entraîneur, ils sont préparés différemment. Tu sais, tu vois que c'est une routine totalement différente des autres joueurs. Puis les autres gars, c'est des professionnels aussi, mais tu sens que ces gars-là sont spéciaux, puis tu le regardes dans le vestiaire. Je suis certain que les gars à Chicago regardent Bedard puis ils se disent, Ouais, il n'y a aucune pression, puis il n'y a jamais rien qui va l'énerver. C'est sûr qu'il va être fâché après certains matchs, parce que ces gars-là, ils s'attendent à marquer 5 buts par match. Puis c'est ça qui fait que c'est très, très beau, parce qu'ils veulent toujours être parfaits. Mais non, il est fait sur mesure, puis je suis content de ce qu'il amène dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'on dirait qu'il y a eu plusieurs vedettes lors des dernières années, mais ça se ressemble d'une certaine façon, tu sais, le caractère, le style de jeu. Bédard, pour moi, c'est totalement différent. Tu sais, c'est un petit joueur, c'est vraiment basé sur l'intelligence. C'est Nick Crosby puis McDavid, je les aime, mais je vais pas canceller quelque chose pour regarder leur match à télévision, mais je vais le faire pour Bédard cette année. Comprends-tu? Quand je le regarde jouer, je trouve ça
spectaculaire. Mais l'as-tu déjà fait dans le passé, Max, admettons, avec un autre joueur ou comme enfant, là, la phrase, admettons, pour qui tu paierais le gros prix pour aller voir jouer? Y a-tu quelqu'un d'autre que Connor Bédard actuellement pour qui tu aurais fait ça dans ta vie d'amateur de hockey ou de joueur?
Ben, je pense que Ovechkin, au début, oui. Tu sais, quand il était en feu, puis il est encore en feu, là, mais dans... C'était impressionnant ce qui amenait le package de mise en échec, de travailler, patiner aussi longuement sur la patinoire puis d'être capable de marquer des buts de la sorte. Ça, c'est sûr et certain. McDavid, tu sais, je suis pas en train de dire que McDavid est pas spectaculaire puis j'achèterais pas mon billet, mais McDavid, je l'adore puis j'ai regardé plusieurs matchs, mais je sais pas pourquoi. Bedard, il vient me chercher plus profondément, on dirait. Je trouve ça nouveau ce qu'il amène dans la Ligue nationale de hockey.
Ben écoute, c'est tout nouveau, c'est tout neuf en effet, et j'ai hâte de voir comment il va être accueilli. Tu penses, tu sais, à Montréal, c'est généralement on a un bon public, mais ça arrive qu'on a envie de chahuter un peu les meilleurs joueurs du club adverse. Je suis curieux de voir comment les gens vont réagir demain.
Ben, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va se faire rire.
Ah oui, tu penses?
je sais pas, là. Il me semble qu'on est intense de même des fois. Moi, je trouve ça comique, là. Tu sais, je peux te garantir qu'il reviendra pas dans le vestiaire puis ça va le déranger, là. Ça fait partie de la game. Puis c'est, je me suis fait tuer toute ma vie, moi, Mario, dans tous les buildings de la Ligue nationale de hockey. Puis je peux te dire quelque chose. J'adorais ça.
Vraiment? Ça te motivait?
Ah oui. Ah, ça me venait me chercher. Ça, c'est sûr et certain. Mon père m'a toujours dit, si personne parle de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas correct. Avec le style de jeu que t'as, si personne est dérangé dans l'aréna adverse, c'est parce que tu fais pas ta job comme pour.
Ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est... Écoute, Piqué l'a vécu beaucoup également. Puis t'as joué avec Piqué, toi, Maxime, hein, non? T'as-tu joué avec Piqué?
Ouais.
Oui, t'as joué avec Piqué. Fait que lui, à Boston, là, il se faisait chahuter, mais en même temps, on dirait que ça sortait vraiment le meilleur de lui.
Ben 100%, parce qu'il savait que ça allait arriver de un. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive dans ce temps-là? Il arrivait une demi-heure avant tout le monde à l'aréna. Il avait les écouteurs, il était encore plus concentré, puis il était prêt à jouer un plus grand match encore, juste pour prouver à tout le monde dans l'aréna qu'il avait tort. C'est ce qui fait que les joueurs spéciaux sont capables de faire des belles choses à la patinoire malgré de l'adversité, parce qu'ils aiment ça, ils se nourrissent de ça.
Maxime, t'es d'accord pour dire que le sport professionnel, bon, il y a le sport au premier degré, mais c'est aussi du divertissement, c'est du show business, puis tu sais, de la musique, l'emballage, des présentations. T'aimes-tu ça, tout ça, comme demain? J'ai hâte de voir quel genre de présentation on va avoir pour le match d'ouverture, mais aimes-tu toute la friture autour de la présentation d'un match, peu importe le sport?
Ben Mario, tu vas rire là, mais une de mes activités préférées, là, quand je suis seul chez nous le soir, puis tout le monde dort, je regarde des entrées de la boxe. Tu sais, les boxeurs quand ils sont présentés avec la musique, les shows de boucan, les lumières, c'est une chose que j'aime regarder. Je fais ça avec le football, la NCAA. Je capote ces présentations de joueurs, les entrées. Je trouve tellement que c'est bien fait. J'ai hâte de voir le Canadien ce qu'ils vont faire demain. Mais oui, t'sais, c'est une autre affaire que j'adore ça. Puis j'adorais ça comme joueur. C'est tellement spécial le début de saison en plus. Je sais pas si tu as vu le lever de la bannière à Vegas, mais pour moi, c'est tellement des beaux moments. J'ai toujours des frissons quand je vois des
joueurs. Ils sont bons. Puis moi aussi, j'adore ça. Puis tu parles de boxe, tu me ramémore des souvenirs. J'ai fait quand même plusieurs galas, plusieurs combats de championnat à New York, Vegas, Montréal, Toronto, Québec, en Allemagne. Puis c'est vraiment, effectivement, des fois l'entrée est meilleure que le combat.
c'est ça. Puis tu sais, des fois, j'en parle, je dis... Y a-tu quelque chose que t'as pas vécu? Parce que, tu sais, j'ai été gâté quand même, là. J'ai eu la chance d'être un joueur de la Ligue nationale de hockey. Y a-tu quelque chose que t'as pas vécu dans ça? Moi, j'aimerais juste ça sortir avec des gants de boxe, la musique, la boucane, mais après ça, je veux pas rentrer dans le ring. Je vais aller prendre une bière à côté.
Hey, j'aime ça, Mac. D'abord, je veux me battre contre toi. On fait juste notre entrée.
On fait l'entrée, puis on s'en va au beurre.
On s'en va dans le salon des anciens tout de suite après. Puis on regarde les autres s'attapocher. Mais puisque tu parles de musique, ben, ça pave la voie à la suite. J'étais pour te demander, on sait que les Bruins ont, pas les Bruins, mais les Leafs ont changé de chanson de but, c'était All in Out, puis plein de monde, on dirait qu'il était tanné, ça en prenait un autre. J'ai pas encore accroché sa nouvelle, mais toi, là, si t'avais à choisir c'est quoi la chanson qui joue quand le Canadien compte un but, ou si c'était ta toune, comme un joueur de baseball qui se présente au marbre, qui est accueilli par sa chanson, ça serait quoi ta toune?
Ben, moi, c'est un classique. C'est Thunder, AC/DC, 100%, Show School. Exact.
Oh, yeah. On se trompe pas.
Ben là, je vais être obligé, c'est avec la musique de même, c'est une crainte, Mario, après l'entrevue, je vais m'en faire des pochats.
Ah oui, ça va faire changement quand regarder un film de Disney avec tes filles. Là, je sais pas si c'est ça que t'avais commencé, mais là, ça change de beat. Mais AC/DC, c'est les champions des tunes du genre. D'ailleurs, ouais. For Those About to Rock est joué à Columbus.
Ah, ouais.
TNT, je pense, est joué à Calgary. Moi, j'en ai une dans la tête, je sais pas trop, j'ai eu comme... J'ai une crampe après-midi, comme c'est ressorti des fois, moi, il y a une toune qui m'arrive dans la tête que ça fait des années que j'ai pas entendu. Écoute ça, voir, dis-moi si ça serait bon, ça.
Ben, Mario, tu t'allèves pour le gars qui ramasse la neige entre les périodes.
Oh, non, mais imagine-toi, là. Tu m'as pas préparé quelque chose avec Cole Caulfield,
Caulfield, celui-là, il va compter!
T'imagines?
Je sens qu'il y a un clash des générations là, en ce moment.
Ben, non, mais je me suis inspiré de... Écoute, il y a pas beaucoup de nouvelles tunes dans la ligue. Regarde, Toronto avait All in Out, fait que... Puis tu sais, ici, DC... Tu parles de clash de génération, Max, là, tu vas être obligé.
Ouais, c'est vrai, dans le fond, qu'est-ce que je dis là, moi, ça, c'est pas mal pareil.
Ouais, c'est parce que tu te vois pas danser sur gimme ça, man. Il me semble que...
Je vais essayer, je te dirai comment je me sens après ça.
Avec ta petite robe en satin de boxeur, là, hein? Ça pourrait être ta toune d'intro, Max.
ça pourrait être pas pire.
Merci beaucoup, mon Maxime. Bonne fin de semaine. Puis ah ouais, les push-ups. Ah ouais.
Bon week-end.
Salut, toi aussi. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
On a fait jouer beaucoup de musique ce soir et ça, c'est la musique qui jouait dans le vestiaire des Phillies de Philadelphie hier après la victoire de l'équipe contre les Braves d'Atlanta, les Phillies qui accèdent à la série de championnats de la Ligue nationale de baseball. Et Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, notre spécialiste baseball, a été témoin de tout ça. Salut Alex!
Salut Mario!
Grosse soirée hier, je sais pas si... c'est spécial, hein, participer puis faire partie d'une organisation qui vit des grands moments comme ça. J'étais encore avec Pierre Gervais, qui a fait partie de conquête de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Toi, tu fais partie des Phillies, vous avancez en série de championnat.
Non, écoute Mario, c'est un monde complètement différent. T'es chanceux d'en faire partie quand t'es un dépisteur ou un entraîneur des ligues mineures. T'es pas avec l'équipe dans la saison, tu travailles à aller chercher des joueurs. Nos coachs travaillent à développer les futurs joueurs. Puis quand tu as l'opportunité d'être présent, parce que l'organisation te donne la chance, tu sens que t'as une fébrilité que t'as pas dans la saison. T'as une fébrilité que t'as pas de contrôle sur l'équipe va gagner ou perdre en termes de Bryce Harper au bâton, t'as rien à faire. T'encourages, t'es là. Mais tu fais partie d'un tout. Le baseball, c'est gros. Tu sais, on a 25 dépisteurs amateurs. On a une cinquantaine d'entraîneurs au niveau des ligues mineures. Tu as tout le personnel alentour de l'équipe. Puis ce que j'aime de notre équipe, puis Bryce Harper, le premier, l'a mentionné, il dit on est un tout, on est une équipe, on est unis. Puis d'en faire partie, là, Mario, j'ai été à des stades, OK? Toute ma vie. Le stade olympique a vibré souvent dans ma jeunesse. C'était le fun, ça brassait. J'étais allé aux séries mondiales en 2003 avec les Marlins, en 8 et en 9 avec les Phillies. Mercredi passé, là, le premier match à domicile contre les Braves où on a frappé 7 circuits, c'était avec un de mes dépisteurs associés, un gars qui sait qui est un bird dog qu'on appelle qui nous aide. Et je l'ai amené avec moi parce que tu sais, il n'est pas payé, il est à la retraite, il aime aller voir des matchs, il nous donne un coup de main. Donc, je l'ai amené à cette partie-là. Puis le deuxième circuit de Harper, je l'ai regardé, j'ai dit tes pieds vides-tu? Je pensais que c'était un tremblement de terre, tellement que le stade shakeait. C'était euphorique, puis tu dis, tu sais, moi, ce gars qui a été élevé à Montréal, là, qui a adoré les expos, travaille pour les Phillies, maintenant, si je commence ma 19e année, t'es comme, wow, d'en faire partie, après le match, le party au stade des Eagles, où les propriétaires sont sur place, puis le propriétaire, il vient voir, ça m'est jamais arrivé, là, en 29 ans, il parle à du monde, il dit, hey, salut Alex, puis je le présente à mon bird dog,
ta réponse est comme, on est chanceux de l'avoir, Alex, c'est un mot du bon gars, puis on est content de t'avoir, et bonne soirée, les boys, amusez-vous. T'es comme, tu sors de là, t'es comme, il sait qui je suis. À Montréal, on ne savait pas qui j'étais. Tu sais, c'est comme, nul n'est prophète dans son pays. C'est moi, j'étais assommé. Donc, Mario, la réponse est longue, je m'en excuse.
Non, c'est bon. C'est de l'émotion pure.
C'est tellement trippant parce que, c'est que l'équipe gagne ou perd dans les prochains, dans la série contre les Diamondbacks. Tout ce que je vais être avec tous nos autres dépisteurs, on est des fans. Mais tu sais quoi? On avait un jeune dépisteur qui était sur place. Pourquoi? Parce qu'il a signé Orion Kirkering, qui est un nom inconnu. Mais il a été repêché en 2022 à la cinquième ronde de l'Université South Florida, Tampa. Puis, il a été monté en septembre cette année. Il a lancé trois fois. Mais en série, déjà, il a déjà lancé trois matchs. Il n'a pas donné de points. Puis, c'est une récompense à ce dépisteur-là qui a fait un travail. C'est un cinquième ronde. C'est pas un premier ronde. Un an après, il est dans les majeures. Puis, Rob Thompson, notre gérant canadien, qui vient de l'Ontario, l'utilise dans des situations. Et c'est là que le dépisteur sent qu'il y a un apport qui est toujours sur le côté, qui est toujours on the side. Mais comme, hey, j'ai aidé à découvrir ce joueur-là. Nos coachs dans les mineurs, on travaillait avec, il a commencé dans le A. On est les Phillies, là. On a des Harper, on a des Wheeler, des Nola. Mais le gars qui était dans le A début d'année contribue au succès de l'équipe. Ça, c'est un côté de développement des pisteurs qui fait que les Phillies, on est là, puis peut-être d'autres équipes ne le sont pas. C'est des gens qui parlent.
T'es aussi fort que ton maillon le plus faible, hein? C'est une phrase qui en dit beaucoup.
Puis en série, les 3 de 5 ou 4 de 7, t'as besoin de tout le monde, évidemment. T'as besoin qu'un Harper qui réponde comme il a répondu. L'émotion, le côté swag, le côté que cette équipe-là, des gars comme Castellanos, Harper, ont besoin d'un peu d'être haïs des adversaires, mais adulés de leurs propres partisans. Écouter un peu après le match hier, là, avec sa casquette noire des Phillies, qui disait « I love this place. J'aime cette place. À chaque fois que j'arrive au Bank, à Citizens Bank Park, je vibre pour les partisans. On veut gagner pour eux autres. On veut gagner pour John Middleton, qui est le propriétaire, qui a dépensé pour gagner. » Puis, tu sais,
c'est un match made in heaven, comme ils disent, hein. Tu sais, Harper puis Philadelphie, là, c'est un naturel. Au départ, tu sais, l'ampleur du contrat, je sais pas si tout le monde était entiché de cette acquisition-là au début, mais il reste que c'est tellement un naturel qu'il joue pour les Phillies.
Mario, à ce moment-là, t'avais Machado, Harper. C'était les deux gros noms que les Phillies courtisaient, OK? T'avais un groupe du côté média ou un groupe du côté de l'état-major qui n'est plus sur place. C'était Machado, joueur d'Areco, peut-être, tu sais, je veux dire, un gars qui peut jouer en infield. Puis l'autre côté, c'était Harper, c'était un tough, c'est un gars qui va toujours aller se battre, va toujours aller au front et commence à prendre la maturité. Puis Machado, qui est encore un excellent joueur, puis qui a signé un gros contrat à San Diego. Mais tu sais, Machado, c'est un joueur, Harper, c'est un joueur. Mais Harper a fait en sorte que la culture, elle a changé. Et les ajouts après qui viennent, Schwarber, Castellanos et Turner, viennent à Philadelphie. Évidemment, pour l'argent, Mario, c'est normal, mais il aurait pu aller à d'autres places aussi pour le même argent. Mais la culture changée, la ville, est comme la ville, les partisans, là, ils arrivent avec leur boîte à lunch. Ils veulent manger, ils veulent voir des gars qui se défoncent. Gagne ou perd, si tu te défonces, puis après le match, tu te présentes devant la caméra, puis tu te dis, ouais, aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Parce que quand Harper a été retiré pour finir la partie numéro 2 sur un double jeu, sur un jeu agressif, il ne s'est pas faufilé. Les partisans n'ont pas tombé dessus. Même dans les estrades, les gens, tu sais, les partisans alentour de nous, ah oh non, Harper, il a bien fait, c'est agressif, c'est correct qu'on va revenir. Puis comment qu'il répond, Harper? Deux circuits. Mario, puis je dis ça, là.
Ça me fait penser à Kovalev. Quand Kovalev avait perdu son gant, là, tu sais, à Montréal contre Boston, là, puis là, il passait pour le coupable d'une défaite, puis après ça, il est allé gagner la série, tu sais. Tu sais, les vrais sont capables de faire ça.
Ils répondent. Puis, l'autre affaire, Mario, là, puis il faut que je le mentionne aujourd'hui parce que c'est un de les gens que je respecte le plus dans le monde, puis un de mes mentors, c'est Claude Raymond. Quand tu reçois un message hier soir, à 11h20 le soir, d'un homme de la trempe de Claude Raymond qui dit « Félicitations, Alex, je suis content pour toi, j'espère que les Phillies vont continuer », puis dit « Je regarde votre banc, ça a l'air d'être un banc que j'aimerais être ». Tu sais, c'est une place qui ont de l'air à triper, puis ils ont de l'air à s'aimer. Toute la gang sur le banc, ils ont du plaisir. Puis quand ça vient d'un homme comme Claude Raymond, ça dit que j'ai dormi comme un bébé. Tu sais, j'étais comme wow, mais ça se fait pas. J'en ai eu des messages là. T'sais, c'est pas moi qui frappe, c'est moi qui lance là. Loin de là, tout le crédit va aux joueurs puis à notre personnel d'entraîneur, ainsi que Dave Dombrowski qui a quand même changé un peu le, notre bullpen qui lance à 100 000 à l'heure. Alors, c'est le fun. Le travail n'est pas fait. Castellanos le dit après la partie. Il nous en reste encore 8 autres. C'est le fun. On va célébrer à soir. Demain, on commence à se préparer pour les Diamondbacks. Puis, tout le monde a hâte. Tout le monde a hâte. C'est le fun de faire partie d'une organisation où à chaque année, ils veulent gagner. Puis, 45 000 personnes l'autre soir, Mario. Je pense qu'il y avait 44 999 qui avaient un chandail, un T-shirt, une casquette ou quelque chose défilé. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Je suis tellement content pour toi, puis je pense que tu ne doutes pas des sentiments qui m'animent, parce que c'est comme ça que je me sens quand quiconque de chez nous, puis en plus quand c'est un ami qui vit des choses comme ça, tu parles de Claude, on a le même respect pour Claude Raymond, à l'image de bien des amateurs, mais c'est un conte de fées, mais la phrase qui me cogne le plus dans tout ce que tu as dit, puis Dieu sait que ça a été des minutes passionnantes ces dernières minutes à t'écouter, mais quand tu dis que le propriétaire des Phillies de Philadelphie vient te serrer la main, puis il dit merci à Alex, puis t'étais dans l'organisation ici dans la ville, puis personne savait que t'étais qui. Puis il n'y a pas pire à faire dans la vie que dans peu importe la personne dans son entreprise qui sent que c'est un atout, qui sait que c'est un atout, mais que les gens qui sont en haut de la hiérarchie de l'entité dans laquelle ils sont, ils regardent sans trop être conscients de ce qu'ils représentent. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose.
C'est les gens qui vendent des billets à Philadelphie, les gens qui travaillent sur le terrain, les gens qui sont dans le marketing. Il n'y a personne qui veut quitter l'organisation. Pourquoi? Parce que les propriétaires traitent les gens qui vendent des billets aussi bien qu'ils traitent Harper. Ils traitent, tu sais, ils traitent les gérants, le gérant Rob Tati d'une façon, mais tu sais quoi? La personne qui travaille au banc numéro 112, qui travaille pour les Phillies, qui fait son petit salaire, il est bien traité aussi. Puis ils ont une fierté d'appartenir à l'organisation. T'as une fierté. Le lendemain matin, j'avais un vol tôt pour la Caroline du Nord. Hey, les gens, tout le monde est habillé en Phillies à l'aéroport. Puis c'est pas juste des gens de Philadelphie à l'aéroport, là. C'est comme, tu regardais à l'entour, ben, tout le monde est de bonne heure. Si tu te promènes à quelque chose, si j'ai un manteau des Phillies, tout le monde, go Phillies. T'es dans l'hôtel ici ce matin, tu vas au gym.
Hey, t'es l'ami de tout le monde. T'es l'ami de tout le monde, Alex. C'est sûr
que quand ça va bien, quand t'en perds ça, écoute, les gens à Philadelphie peuvent être durs, c'est sûr et certain. Mais présentement, c'est des bons moments, puis je pense que ça va continuer parce que quand tu gagnes, tu attires d'autres bons agents libres. Les gens veulent aller où c'est le fun de jouer. Tu sais, quand le Canadien joue, puis il y a 21 000 personnes, puis il y a des gens qui aiment peut-être pas jouer pour le Canadien à Montréal, mais ceux qui aiment le hockey, puis qui aiment l'ambiance, tu veux jouer à Montréal. Tu veux cet enthousiasme de ta foule quand ça va bien, comme Kovalev t'a mentionné tantôt. C'est ça, Philadelphie, présentement. Ça soulève la foule. L'arrêt-co des Braves d'Atlanta, mercredi, il l'a perdu bien raide, là, parce que c'est lui qui avait dit « Attaboy Harper » quand il s'est fait retirer, puis les médias ont rapporté les propos dans la chambre des Phillies, ils n'ont rien dit, puis là, c'est comme... Il a frappé deux circuits, l'équipe a répondu...
Attaboy Harper! Je ferai un T-shirt avec ça, moi-là, là!
Mais Mario, là, je sais pas si tu as vu dans la chambre après, hier, un des amis d'un joueur a fait faire des T-shirts, en avant, c'est marqué... Attaboy Harper, puis en arrière, c'est he was not supposed to hear it. C'était pas pour ses oreilles.
Eh, hey, bonne celle-là. Ça me fait penser. Ça me fait penser au chandail de Toro quand c'est qui le cherchait, dont le lanceur.
Ouais, Verlander, quand il a lancé son
Where the heck is Toro? Hey, Alex, question que tu quittes les zones en champion ce soir, là. C'est quoi ta toune? Mettons, là, si t'étais dans le baseball majeur pis t'arrives au bâton, là. Sur quelle toune tu veux arriver au bâton? T'es un gars fier, hey. Les gens qui te connaissent, hey. Alex, toi, t'as un petit côté fier. C'est quoi la chanson?
Ben, j'en ai bien, mais je veux dire, moi, j'ai toujours aimé Put Me In Coach. Tu sais, je veux dire.
Put Me In Coach.
Ça a toujours été bon. Put Me In Coach, I'm Ready to Play. Là, je pense que c'est John Mellencamp, pas trop sûr, je suis pas bien bon avec les noms. I'm Ready to Play. Put Me In Coach, j'en ai une bonne.
Oui, c'est en plein ça.
J'en ai une bonne.
Vas-y, mon Jess.
C'est du bon stock, il y en a plein, mais...
And now batting for the Philadelphia Phillies. Number... C'était quoi ton numéro, Alex, dans le temps?
Dans le junior, c'était 18.
Number 18. Le numéro 18, Alex. Agostino! On se tape la publicité de YouTube. Je pensais d'arriver et que la toune partirait, mais... Et voilà! Hey, Alex, t'as du bonbon.
Ah, c'est bien le fun. Toujours plaisant.
Merci de partager ces moments de joie avec nous. Bonne fin de semaine, Alex.
Merci,
on s'en parle bientôt.
Bye-bye.
Hey, mon Jeff, toujours là. Et Antoine Roussel vient de sortir du bois. On l'accueille au retour. Salut.
Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
C'est le signal. C'est le signal d'aller retrouver Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais à la veille de l'ouverture locale des Sénateurs qui affrontent et reçoivent demain les Flyers de Philadelphie. Bien le bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, une défaite pour les Sénateurs à leur premier match sur la route plus tôt cette semaine, 5-3 contre les Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'on aura un alignement complet? On a l'impression que c'est davantage la gestion de la masse salariale que le club comme tel qui retient l'attention en ce moment, là.
Oui, d'abord, oui, à ta question, il va y avoir un alignement complet. Là, au strict minimum, il y avait Zach McEwen qui était blessé lors du match inaugural qui va probablement être là demain contre les Flyers. Puis ensuite de ça, oui, t'as tout à fait raison. En ce moment, c'est de la gestion de plafond salarial, ce qui n'est pas totalement désagréable quand on sait à quel point les Sénateurs ont eu des problèmes dans le passé seulement à se placer au plancher salarial. C'est rafraîchissant de vivre une problématique différente. Mais en même temps, c'est sûr que ça ne peut pas durer éternellement. Là. Il y a le pauvre Shane Pinto qui est encore à la maison, qui n'a pas commencé à s'entraîner avec l'équipe, qui n'a toujours pas de contrat. Éventuellement, il va falloir que les Sénateurs règlent ça.
Quel regard penses-tu, puis là je te demande de spéculer, à moins que tu aies des informations privilégiées, quel regard le nouveau propriétaire Michael Andlauer peut jeter sur cette situation-là, là, de la masse salariale, puis de Pinto qui n'est pas sous contrat encore, donc c'est loin d'être parfait comme portrait, là.
C'est dur à dire, parce qu'à date, là, jusqu'à maintenant, quand on l'a vu, Michael Andlauer, c'était dans un contexte festif, où il réalise son rêve de devenir propriétaire. Donc, il n'était pas vraiment dans l'optique ou dans le mindset de critiquer qui que ce soit. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il en pense, mais c'est certain que si l'équipe a perdu le premier match, il fallait que l'équipe en perde quelques autres dans les prochaines semaines, sachant que tu as un excellent centre qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire, qui peut marquer 20-25 buts par saison, et puis qui attend à la maison qu'on lui fasse une place sous le plafond salarial. Je suis convaincu que si ça perdure trop longtemps, ben ça sera pas trop bon pour Pierre Dorion.
Toi, tu dirais-tu que c'est le fruit d'une mauvaise gestion ou c'est juste circonstanciel puis ça va être un mauvais épisode vite oublié, là, toute cette situation-là?
Écoute, moi, à partir du moment, puis je pense qu'on s'en était parlé à ton micro cet été, quand ils ont mis ce contrat Vladimir Tarasenko, moi, depuis le premier jour, j'ai eu l'impression que c'était une embauche dont les Sénateurs n'avaient pas besoin. Je pense que l'attaque d'Ottawa était déjà très, très potable sans lui. Et puis là, j'avais même pas calculé le fait qu'avec les 5 millions de dollars qu'il lui paierait, ça lierait les mains de Pierre Dorion pour la suite des choses, sachant que Shane Pinto était encore joueur autonome. Mais là, maintenant, écoute, Dorion n'arrête pas de nous dire qu'il est capable de régler ce problème-là s'il veut demain matin. Qu'il peut faire une transaction puis permettre de dégager assez d'espace pour entrer Pinto dans la masse salariale. Mais écoute, il nous dit ça depuis un mois et demi, puis la transaction n'est pas conclue encore.
Puis Mathieu Joseph joue du bon hockey.
Oui.
Ça, puis je mentionne son nom parce que c'est le nom qui est souvent dans les rumeurs, Sylvain, là.
Oui, puis je continue de penser, même s'il rebondit, là, c'est le type de joueur que les Sénateurs pourraient probablement sacrifier dans une transaction sans trop que ça paraisse. Mais ceci dit, je suis très, très content de voir ce qui se passe avec lui. Il a travaillé super fort cet été, changé son régime d'entraînement, changé ses priorités à l'entraînement. Et puis, on l'a vu dès le début du l'entraînement, que c'était plus le même joueur. DJ Smith l'a dit, il a remarqué au bout d'une semaine au camp d'entraînement que Mathieu Joseph était un joueur transformé. Puis là, ben, on le voit, il connaît un excellent début de saison.
T'es un gestionnaire, tu sais que le club est à vendre. Je sais pas jusqu'à quel point Pierre Dorion a commis des gestes, a posé des gestes dans le but de paraître le mieux possible face à l'acquéreur. Puis ceci dit, ces gestes posés-là, on n'est pas sûr qu'il y a la meilleure photo possible dans les circonstances. C'est ça qui est embêtant à analyser, hein?
Oui, ben écoute, Pierre, c'est un directeur général très, très impulsif, très émotif. Il dit souvent qu'il n'a pas peur de poser des transactions, qu'il n'a pas peur de se mouiller. Et puis, des fois, quand on voit là, qu'il y a un joueur de talent ou avec une grosse réputation qui est disponible, il peut s'emballer et peut-être des fois là, poser des gestes sans réfléchir aux conséquences à moyen et long terme. C'est ça qui s'est produit, entre autres, quand il a eu la chance d'aller chercher Matt Duchesne dans sa première année comme directeur général. Puis le scénario s'est répété après ça avec Alex DeBrincat et maintenant avec Vladimir Tarasenko. Moi, je maintiens là, que les sénateurs n'avaient pas besoin de son contrat, n'avaient pas besoin de lui. Puis là, pour l'instant, là, on est rendu, ça fait déjà trois, quatre semaines, là, qu'on le camp d'entraînement a commencé, puis la saison a commencé. Puis il n'y a pas de résolution en vue.
Par ailleurs, Daniel Alfredson effectue un combientième retour dans l'environnement des sénateurs? C'est pas la première fois qu'il revient, hein?
D'abord, il est revenu comme joueur à la toute fin de sa carrière. Il a signé un contrat d'un jour. Ensuite de ça, il est revenu comme dirigeant sous Eugene Melnyk. Puis là, ce serait son troisième retour dans l'organisation. Puis je trouve que c'est une observation intéressante que tu fais là. Parce que c'est une belle journée à Ottawa, tout le monde est content, Mario, mais en même temps, Alfredson, son poste n'est pas défini. Je pense qu'on s'est empressé de le faire entrer dans l'organisation parce que Steve Staios voulait se faire des amis, des alliés, mais effectivement, moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à définir son poste et son rôle parce que Alfredson, malgré toutes ses qualités puis tout le respect et l'amitié que j'ai pour lui, c'est aussi une tête forte. C'est quelqu'un qui tient à prendre des décisions. Puis quand ça se passe pas à son goût, ben il réagit pas toujours super bien. Fait que là, en ce moment, quand il y a un rôle pas très, très défini, assis entre deux, trois chaises, j'ai pas l'impression que c'est une recette pour un succès à très, très long terme.
Et c'est probablement pour ça qu'il est parti aussi souvent qu'il est revenu, dans le fond, quand ça a pas fait son affaire. Mais je suis intrigué quand tu dis qu'il aime ça prendre des décisions. C'est un gars qui a les yeux sur un poste, justement, un poste d'impact dans la hiérarchie hockey, le poste de Pierre Dorion ou?
Je ne pense pas que le poste de directeur général l'intéresse. Vraiment, ça, par contre, je le sais sincère. Quand il dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est le développement des joueurs, il aime ça être sur la patinoire, travailler avec les joueurs. En même temps, il veut pas être entraîneur à temps plein parce que je pense que le style de vie ne lui convient pas. Il pense que en Amérique du Nord, les entraîneurs travaillent des heures déraisonnables, peut-être des fois trop d'heures pour ce que ça vaut. Mais fait que je pense que le rôle lui convient. Je peux juste te dire, je pense que de définir très rapidement son poste puis ses responsabilités, là où ses responsabilités commencent puis finissent, puis là où son pouvoir finit, je pense que ça va être bon pour tout le monde.
Et à quoi tu t'attends comme ouverture locale demain, puis comme début de saison, là, maintenant que les sénateurs vont disputer quelques matchs à domicile?
Écoute, je pense que le match en Caroline a été un dur rappel à tout le monde que les sénateurs demeurent une jeune formation. Quand les Hurricanes se sont mis à faire circuler la rondelle dans leur territoire, pour la défensive des sénateurs, circulait encore très, très rapidement. Fait que j'espère pour eux qu'ils vont profiter des matchs à domicile dans les prochaines semaines pour se replacer puis accumuler des points au classement qui vont être super importants. Mais en même temps, là, j'ai hâte de voir les performances en fin de semaine, voir si l'équipe peut se replacer puis voir peut-être c'est juste un accident de parcours de se faire dominer comme ça en deuxième puis en troisième période en Caroline. Parce que les problèmes des sénateurs des dernières années, ben, on les a revus cette semaine en Caroline.
Est-ce que Josh Norris va jouer en fin de semaine?
Semble-t-il que oui. Peut-être pas demain, mais peut-être qu'il serait disponible dimanche. En tout cas, il serait tout près d'un retour. Il s'est encore entraîné au complet. Là. Il a pris part à tous les exercices aujourd'hui. Semble-t-il qu'il serait près d'un retour au jeu, mais c'est pas la première fois qu'on dit ça en même temps.
Au point de vue des assistances, là, comment ça s'est comporté ces dernières années à travers le processus de reconstruction? Puis est-ce que les amateurs sont de retour en grand nombre au-delà du match d'ouverture? Est-ce que tu as l'impression que les sénateurs vont jouer devant des salles combles assez régulièrement cette saison?
Salles combles, c'est peut-être beaucoup demandé dans le contexte qu'on connaît là, avec la plupart des équipes canadiennes qui ont de la difficulté à faire salles combles en ce moment. Mais ça va mieux. Le gros défi, puis quand ils ont ramené le président Cyril Leader, tout de suite ce que M. Leader m'a dit, c'est que le gros défi, c'est les billets de saison. Les sénateurs refusent de dévoiler le nombre de billets de saison qui sont vendus, mais ça reste le dernier là, relan de l'époque Melnyk. Les gens sont pas revenus en grand nombre à ce niveau-là. Puis ça met beaucoup, beaucoup de pression sur le marché qui est tout petit à Ottawa pour vendre peut-être, quand il faut que tu vendes 10, 11 000 billets par soir à la porte le jour de l'événement, c'est beaucoup demandé à Ottawa.
Est-ce que l'Outaouais québécois est courtisé par les sénateurs. Et je sais que Michael Andlauer a dit là, en entrant en poste que c'est un marché dont il veut prendre soin. Mais toi, que constates-tu depuis plusieurs années par rapport à cet aspect-là du marché?
Ben, Michael Andlauer, d'abord, le discours a changé quand il est arrivé. Il a répété à plusieurs occasions que selon lui, c'est l'équipe d'Ottawa Gatineau, l'équipe de la région au grand complet. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu en 30 ans de la part des propriétaires et des dirigeants précédents. Maintenant, est-ce qu'on a vu un changement depuis qu'il est entré en poste? Non, pas vraiment. Dans les opérations quotidiennes, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, moi, je suis prêt à donner la chance au coureur. Quand ça fera 6 mois qu'il est en poste, s'il n'y a pas eu de changement, on s'en reparlera. Mais pour l'instant, là, tranquillement, pas vite, on s'installe.
Ouais, moi, je peux te dire une chose. C'est sûr qu'on est de Montréal, puis je ne sais pas si la direction de communication des sénateurs nous voit comme l'ennemi, mais considérant qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs en Outaouais via notre station, le 104.7 en Outaouais, le traitement qu'on accorde aux médias est médiocre. Je veux dire, c'est très, très rare qu'on a une collaboration. Je parle à des DG de partout dans la Ligue. Ça doit faire, je sais pas combien d'années, j'ai pas pu avoir Pierre Dorion au bout du téléphone. Je dis pas que c'est Pierre Dorion qui va vendre des billets en donnant des entrevues, mais il me semble que, en tout cas, de bien des façons, à part Thomas Chabot, là, ça a été très, très difficile d'avoir de la collaboration de cette organisation-là depuis belle lurette, en espérant que ça change avec le nouveau propriétaire.
Oui, ben écoute, t'es pas le premier ou t'es certainement pas seul à te plaindre de cette situation-là. Mais comme je te dis, moi, j'ai l'impression que Michael Andlauer et puis son groupe, ils ont dépensé une somme assez importante. Ils vont vouloir faire les choses correctement pour avoir un bon retour sur leur investissement. Mais écoute, je pense que les changements s'en viennent, mais ça va pas se faire du jour au lendemain.
Eh bien, Sylvain, bon match demain, bonne fin de semaine et à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Bye. Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais.
Les amateurs de sport.
C'est 23.